psychologie, analyse, sexologie, psy, sex and radio.
Eh bien voilà, nous sommes un jeudi après-midi dans la galerie des Salines, dans la radio, enfin dans les, le studio de la radio Frequenza Nostra. Et vous, je ne sais pas où vous êtes, peut-être à la maison sur votre canapé, peut-être dans la voiture, peut-être au bureau, qui sait. Ne vous faites pas attraper, attention. Peut-être que vous avez même l'autorisation, alors peut-être que vous êtes en télétravail. Enfin, peu importe, c'est l'heure, en tout cas, de notre émission Psy, Sex and Radio avec notre psychopraticien relationnel préféré, Daniel Ross. Il en a marre, Daniel, parce que je dis ça à chaque fois et quand je le présente, maintenant, je le présente toujours comme ça en disant très vite le titre. Ça va, Daniel ?
Ça va, merci beaucoup.
Alors, quoi de neuf ?
Écoute, le psycho, j'arrive pas à le dire aussi vite que toi.
Tu as vu ? Il y a quand même un sacré progrès, je trouve, de mon côté. Alors, pas toujours. Là, c'est parce que vraiment, je me suis entraînée. Tu vas le remarquer peut-être aujourd'hui, il y aura de la bafouille un peu plus que d'habitude. Il y a des jours où on fatigue un peu plus.
Oui, mais ça, c'est l'âge qui commence à faire.
Aussi, merci. Je mettais juste ça sur le compte de la fatigue, ça peut arriver à tout le monde. Mais bon, voilà, le grand âge aussi, il fait. Alors, Daniel, il va être question, je crois, si je ne me trompe, d'inconscient collectif.
Tout à fait. Alors, comme je te l'ai dit quand je suis arrivé dans ces beaux locaux, j'ai commencé un livre. Quand je dis j'ai commencé, c'est parce que ça fait pratiquement 8 ans que je suis dessus. J'ai commencé un livre sur l'inconscient collectif. Dans ce livre, je fais un parallèle entre l'inconscient freudien et l'inconscient jungien. Et j'essaye le plus humblement possible de démontrer que Freud aussi a parlé de l'inconscient en collectif, malgré que c'était été un point d'achoppement entre ces deux grands penseurs. Pardon. Et ensuite, dans cet ouvrage, j'ai commencé aussi à parler de l'inconscient collectif en Corse, parce que je trouve qu'on est une région, un pays.
N'ayons
pas peur des mots, un pays dans lequel l'inconscient collectif est encore très 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 présent. Voilà. Donc j'ai imprimé les 5-8 premières pages de mon futur livre. Un petit peu de pub, un livre qui peut-être ne sortira jamais.
Ou encore dans 8 ans.
Ou encore dans 8 ans, on ne sait jamais. Et donc, ce que j'ai proposé, quand on s'est posé la question de quoi va-t-on parler, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas parler de ça? Je pense que ça serait intéressant.
Est-ce que dans ces, en tout début, tu définis ce que c'est ce fameux inconscient?
Voilà, tout à fait. Tout à fait. Ce sont ces pages où je récupère les notions de Jung pour définir ce qu'est l'inconscient à la fois collectif et l'inconscient personnel, avec une grande différence entre Jung et Freud, puisque pour Freud, l'inconscient n'est fait que de choses refoulées, et pour Jung, l'inconscient, je parle du personnel, est fait effectivement de choses refoulées, mais est fait aussi de choses qui sont intrinsèquement positives. Voilà. Donc, je pense qu'il est intéressant de rentrer. Là, on rentre vraiment dans la psychanalyse proprement dite. Peut-être que certains vont s'endormir, ça sera soporifique, ça leur permettra éventuellement de réussir à faire une bonne sieste.
C'est ce que j'allais dire, c'est l'heure de la sieste,
voilà.
Ça va. Mais quoi qu'il en soit, si vous vous endormez et que malgré l'intérêt que vous portez à l'émission, n'hésitez pas à revenir soit sur la page Facebook où vous pourrez retrouver le live, soit elle sera de toute façon cette émission podcastée sur notre site web et le lien sera diffusé sur les réseaux sociaux de Frequenza Nostra. Allez, on y va, Daniel.
Voilà, donc comme j'ai pu faire la dernière fois ou l'avant-dernière fois quand j'ai présenté le colloque que j'avais fait à la Sorbonne en sexo-analyse, ben, si tu le permets, je vais lire tout bêtement.
Je te permets.
Voilà, alors, les théories énoncées dans cet ouvrage n'engagent que moi et parlent de travaux réalisés à partir des écrits de Carl Gustav Jung. Ces travaux font écho en moi. Et en ma façon d'entrevoir la notion d'inconscient, en aucun cas il ne s'agirait pour moi d'imposer un modèle ou un quelconque dogme. Chaque thérapeute est unique, chaque patient l'est tout autant. Cette pensée est la mienne, je suis heureux de pouvoir la partager sans pour autant prétendre l'imposer. Ça, c'était un préambule.
Mais alors, je vais commencer, tu vois, à t'interrompre, mais j'aime bien ce préambule parce que c'est quelque chose sur quoi tu reviens à chaque émission.
Oui.
Et je trouve que c'est important et je t'en remercie aussi.
C'est pas parce que je pense ça que tout le monde doit penser ça. Je veux dire, je crois que c'est Voltaire qui a dit « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je ferai tout pour que vous puissiez le dire ».
Voilà, ça on aime.
Voilà, c'est voilà. Donc,
merci.
Je t'en prie.
Allez.
La notion d'inconscient collectif nous renvoie à une notion de conservation inconsciente des histoires familiales sur plusieurs générations. La terre de Corse semble, à mon sens, être un lieu de prédilection où se jouent non seulement le présent et le futur, mais aussi un passé que lointain qui semble omniprésent dans ce que d'aucuns appellent la mémoire collective. Selon Carl Gustav Jung, la conception d'inconscient collectif et d'archétype nous apporte la réflexion sur le fait que notre psychisme n'est pas uniquement composé d'expériences débutant dès notre premier souffle. Pour lui, l'inconscient est aussi fait de l'histoire de nos familles, de l'histoire de notre civilisation, voire de l'humanité tout entière. Et d'ailleurs, bien que cette notion d'inconscient collectif ait été, entre parenthèses, entre autres, une des grandes divergences entre lui et Jung, Freud a lui aussi admis l'existence dans le psychisme d'une instance collective transmise de façon inconsciente, une notion d'héritage archaïque dont il fait référence dans de nombreux ouvrages. Bien après ces deux grands penseurs, d'autres sommités ont à leur manière conforté cette notion d'inconscient collectif. La citation de Françoise Dolto « Il faut trois générations pour faire un enfant psychotique », le psychodrame de Jacob Lévy-Moreno, le manque à parler des ancêtres qui devient pour le psychanalyste freudien Didier Dumas un impensé généalogique chez les descendants, ou encore le concept de la crypte et du fantôme chez les psychanalystes freudiens Nicolas Abraham et Maria Torok, sont, je tourne la page, autant d'exemples qui montrent qu'aujourd'hui cette notion d'inconscient collectif n'est plus, ou du moins ne devrait plus être, source de conflits intra-psychanalytiques. J'espère que ce n'est pas trop rébarbatif.
Hein. Mais peut-être qu'il faut, par exemple, après, peut-être que tu nous expliques qu'est-ce que c'est ce fameux conflit.
Alors, ce fameux conflit, c'est que quand on dit la psychanalyse en elle-même est uniquement réservée aux freudiens et aux lacaniens. C'est-à-dire que si moi, thérapeute jungien, j'ai le culot de dire que je suis psychanalyste, je vais me faire huer et on va me dire non, certainement pas, tu n'es pas psychanalyste, c'est uniquement réservé aux freudiens et aux lacaniens. Il y a eu au début de leur rencontre, Freud et Jung ont été admiratifs l'un pour l'autre. Et ils ont commencé à travailler ensemble. Jung a été le président de l'Académie de psychanalyse et a dirigé cette académie pendant des années et des années, jusqu'à ce qu'il mette à jour justement cette notion d'inconscient collectif et jusqu'à ce qu'il mette à jour aussi des notions de libido. C'est-à-dire que pour Freud, la libido, c'est la pulsion sexuelle. Pour Jung, la libido, c'est la pulsion. Il n'y a pas qu'une pulsion sexuelle, il y en a une multitude. C'est vrai qu'aujourd'hui, le mot libido est rentré dans le langage courant et qu'on dit « je n'ai plus de libido » ou « j'ai de la libido », ça veut dire « j'ai une envie sexuelle ». Mais à la base, le terme libido désigne la pulsion. Et donc, il y a eu à un certain moment un échange assez virulent entre Jung et Freud. Et ils se sont carrément disputés. Et comme Jung a fait l'extrême bêtise, parce qu'à mon sens c'est une bêtise, de prendre pour maîtresse une de ses patientes, les freudiens se sont appuyés sur ce fait en disant « oui, ben lui, c'est un salaud, je schématise, hein, ils n'ont pas dit de cette manière ». Donc ils ont essayé de le discréditer, non pas sur ses écrits, non pas sur ce qu'il a pu mettre à jour, mais simplement sur ses actes. Je trouve que c'est bête de s'arrêter à des actes. Certes, les actes peuvent définir ce que nous sommes, j'en conviens, mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout jeter le bébé avec l'eau du bain, si je peux m'exprimer ainsi.
C'est ça. Et donc, pour résumer, revenir sur cet inconscient collectif, selon ce que tu dis et selon d'ailleurs la citation de Dolto, c'est une affaire d'héritage, c'est une affaire de génération, c'est quelque chose qui se transmet, en tout cas, c'est ça ?
Mais ce que je trouve étrange, c'est que, et je le dis d'ailleurs dans mes écrits, ce que je trouve étrange, c'est que si on parle, par exemple, de la psychogénéalogie, qui aujourd'hui est à la mode, c'est-à-dire faire un arbre généalogique et voir quels ont été les traumas vécus par nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc., etc. Et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui reviennent dans les familles. Cette psychogénéalogie montre bien qu'il y a quelque part un inconscient collectif. Mais étrangement, cette notion de psychogénéalogie, elle a été mise à jour par une psychanalyste freudienne. Donc, je trouve que c'est...
Mais c'est fou quand même de... Bon, enfin... ça sera encore peut-être un autre débat, mais justement cette guéguerre parce qu'on n'est pas d'accord,
oui, oui, oui.
Au lieu d'essayer, bon, on peut avoir quoi qu'il en soit ses idées, ses opinions, mais faire avancer en tout cas la cause.
Tout à fait. Voilà.
Allez,
je continue. Pour Jung, l'approche de la psychologie part de l'étude du psychisme de la personne normale. Au lieu d'explorer le fonctionnement des personnes névrotiques ou psychotiques, il part de la normalité et découvre des notions psychologiques majeures telles que l'inconscient collectif. Jung va plus loin dans ses travaux puisqu'il nous explique que, tout comme Freud, il prône l'existence d'un inconscient personnel acquis pendant la vie de l'individu, mais aussi d'un inconscient collectif dont les archétypes, centres chargés d'énergie, constituent un fond commun à toute l'humanité. Citation de Jung, « La plupart des premières impressions de la vie s'oublient vite. Elles forment la couche infantile de l'inconscient personnel, ainsi que je l'appelle. J'ai quelques raisons de tenir à cette division de l'inconscient. L'inconscient personnel renferme tout ce qui a été oublié ou refoulé ou tout ce qui est devenu subliminal d'une autre manière, tout ce qui a d'abord été acquis consciemment ou inconsciemment par l'individu. Ces éléments ont des caractéristiques personnelles sur lesquelles on ne peut se méprendre. Mais on peut aussi découvrir des éléments qui paraissent étrangers et étrangers à l'individu, presque sans trace de propriété personnelle. Des contenus étranges de cette nature apparaissent à l'occasion de rêves de gens normaux. Cette couche impersonnelle de l'âme, je l'appelle inconscient collectif. Collectif parce que ce n'est pas une acquisition personnelle et qu'il s'agit de fonctionnement de la structure cérébrale héréditée dans ses contours généraux et la même chez tous les êtres humains. Le cerveau hérité est le résultat de la vie ancestrale. Il est constitué des résidus structurels, des sédiments qui se sont précipités ou des correspondances des activités psychiques répétées à l'infini dans la vie de nos ancêtres. Pour Freud, selon la première topique, l'inconscient est l'instance constituée d'éléments refoulés qui se sont vus refuser l'accès à l'instance préconscient-conscient. Dans la seconde topique, alors topique c'est les premiers travaux de Freud, les deuxièmes travaux de Freud, le terme inconscient qualifie l'instance du « ça » et s'applique partiellement à celle du « moi » et du « surmoi ». Nous pouvons donc dire que l'inconscient freudien naît du refoulement d'éléments insatisfaits que la psyché n'arrive pas à maîtriser, donc des éléments que nous pouvons qualifier de négatifs pour le sujet. Jung nous dit, selon la théorie freudienne, l'inconscient ne renfermerait donc, pour ainsi dire, que des éléments de la personnalité qui pourraient tout aussi bien faire partie du conscient et qui, au fond, n'ont été bannis, n'ont été réprimés que par l'éducation. Donc voilà, la divergence arrive là. C'est-à-dire, voilà, Freud nous dit, voilà, l'inconscient, c'est uniquement l'inconscient personnel. Et finalement, ce que la personne n'a pas pu supporter, ce qu'elle n'a pas pu intégrer de par son éducation, de par sa culture, elle va le refouler. Et ces refoulements vont avoir une incidence sur le conscient, donc sur nos modes de fonctionnement.
Et il y a aussi, si j'ai bien compris, cette notion de cerveau hérité. Hein. Qui est quand même très particulière. Ça peut à la fois heurter et interroger, en fait.
Ça voudrait dire que
toutes ces générations qui nous ont précédés, en fait, notre cerveau est fait de ça.
Oui, c'est ce que nous dit Jung. Et je dirais que petit à petit, les chercheurs sont en train de se dire « oui, effectivement, il avait raison ». Effectivement, ça fonctionne comme ça.
Juste une question. Oui. Au début, justement, ils font référence, c'est Jung, je crois, qui fait référence à la normalité. Hein. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il entend par normalité? Qu'est-ce qui est normal? Quelle personne est normale et laquelle ne l'est pas?
La personne normale, c'est la personne qui peut vivre, entre guillemets, c'est très con ce que je veux dire, qui peut vivre normalement. Qu'est-ce que ça veut dire vivre normalement? J'anticipe ta question. Freud a travaillé sur des gens malades. Sur des gens qui avaient des problèmes psychologiques. Alors, le problème psychologique, c'est tout bêtement la souffrance. Je souffre de ce que je vis. C'est pas une souffrance physique, bien que ça puisse le devenir. C'est une souffrance psychologique. Jung a travaillé et sur des personnes qui avaient des problèmes psychologiques et sur des gens normaux, c'est-à-dire des gens qui pouvaient, puisqu'aujourd'hui, ils ne sont plus là, qui pouvaient vivre normalement, qui pouvaient vivre sans souffrance psychique. Je tiens à appuyer quelque chose. Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui disait la psychologie ou la psychanalyse, ça sert à ce que l'individu accepte de vivre dans une société, même si cette société est dysfonctionnelle. Je suis totalement en désaccord avec ce qu'a dit cette personne. Ou du moins la psychologie que moi je fais, c'est pas pour que l'individu réussisse à vivre dans une société dysfonctionnelle, c'est pour que l'individu accepte ce qu'il est, quel que soit l'endroit où il se trouve, qu'il soit dans une société fonctionnelle ou dans une société dysfonctionnelle. Voilà.
C'est accepter ce que l'on est.
Accepter ce que l'on est.
Et accepter, même au-delà, le vivre en fait, accepter le vivre pleinement.
Accepter le vivre pleinement et accepter éventuellement, si j'estime que la société est dysfonctionnelle. Alors je prends toujours cet exemple, et certains vont dire que je radote, mais peu importe. Dans les années 30, en Allemagne, la norme était d'être nazi. La société était dysfonctionnelle, mais la majorité des gens ne le voyaient pas. Et ceux qui le voyaient ne pouvaient pas accepter. Donc, si la psychanalyse avait été le fait de leur faire accepter, ben, tout le monde serait devenu nazi. J'exagère dans ce que je dis, mais voilà, je pense que cet exemple est assez parlant. Donc, c'est le fait d'accepter, soit d'accepter de fonctionner comme ça et d'être, entre guillemets, différent, soit de comprendre pourquoi je suis différent et tendre vers ce qui peut être ma norme.
Et là encore, hein, ça sera peut-être aussi le sujet d'une autre émission, mais... S'accepter soi-même, se connaître soi-même, c'est déjà tellement un long travail.
Oui, c'est certain.
Allez, on continue du coup on arrive à la dispute.
Non, je ne vais pas. Non, là, je parle pas de la dispute. Non, je vais pas m'étaler là-dessus. Il y a eu trop d'écrits qui, à mon sens. Alors, encore Jung qui nous parle. Théoriquement, on peut fixer les limites au champ de la conscience, puisqu'il est capable d'une extension indéfinie. Empiriquement, cependant, il trouve sa limite lorsqu'il atteint l'inconnu. Ce dernier est constitué de tout ce que nous ignorons et qui, par conséquent, n'a pas de relation avec le moi étant le centre de la personnalité, centre du champ de la conscience. L'inconnu se divise en deux groupes d'objets, ceux qui sont extérieurs et qui seraient accessibles par les sens, et ceux qui sont intérieurs et qui relèvent d'une expérience immédiate. Le premier groupe constitue l'inconnu du monde extérieur, le second, l'inconnu du monde intérieur. Nous appelons inconscient ce dernier. L'inconscient ne se compose pas seulement des éléments refoulés, mais aussi de tous les éléments psychiques qui n'ont pas atteint le seuil de conscience. Elle est là la grande différence. Elle est là la grande différence entre Freud et Jung, c'est que pour Freud, il n'y a que du refoulé. Un petit peu, je schématise bien entendu, c'est pas aussi simple, un petit peu comme si j'avais une boîte vide et que je la remplisse de choses que je ne veux pas. D'accord ? Pour Jung, il y a une boîte dont on ne connaît pas le fond. Je jette dans cette boîte des choses que je ne veux pas, mais dans cette boîte, il y a aussi des choses qui peuvent arriver à ma conscience à un certain moment.
Est-ce qu'il n'était pas un peu comme ça, Freud, négatif ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses, en tout cas des concepts qui sont assez, on va dire, populaires, assez vulgarisés. Hein. On a toujours cette impression qu'il y a du négatif.
Alors, si je vais dire oui, mais je sais que je vais...
Oups, il va y avoir des gens pas contents.
Oups, il va y avoir des gens pas contents. Mais oui, effectivement, on est dans la psychanalyse, dans quelque chose d'assez rébarbatif, quoi. D'assez négatif, à mon sens.
En tout cas, le peu qu'on peut connaître, hein, on va dire quand on est lambda, qu'on n'est pas professionnel soit de la psychanalyse, ni de ces concepts-là, mais c'est vrai qu'il y a des choses toutes faites. Hein, quand on parle de... Oui, quand on dit oh, ben ça c'est freudien, de suite il y a un côté négatif, une connotation vraiment
négative.
Oui,
tout à fait. Allez. Pour Jung, le conscient et l'inconscient se compensent l'un l'autre. Ils représentent à eux deux une totalité psychique. Le conscient et l'inconscient ne s'opposent pas nécessairement, mais se complètent réciproquement, formant à eux deux un ensemble, le soi. Donc le soi, pour Jung, c'est l'ensemble de la personnalité, c'est-à-dire tout ce qui contient le conscient et l'inconscient. Et le principe d'individuation, c'est de réussir à un certain moment à prendre conscience de son inconscient, des éléments qui composent son inconscience. C'est ce que Jung appelle le principe d'individuation. De plus, pour Jung, l'inconscient ne naît pas du conscient refoulé, mais inversement, c'est le conscient qui naît de l'inconscient. Ça aussi, c'est un concept totalement divergent avec Freud. C'est-à-dire que pour Jung, l'individu, quand il arrive au monde, il est, entre guillemets, dans un inconscient. C'est en ce sens que moi j'explique, quand un gamin est en train de jouer, il est dans son monde et qu'on l'appelle, il faut l'appeler 2, 3, 4 fois, voire même venir lui taper sur l'épaule pour lui dire « Oh, je t'appelle » parce qu'il est dans son inconscient. Et il émerge de l'inconscient, il vient dans le conscient. Alors que en psychanalyse freudienne, c'est l'inverse. L'inconscient ne naît pas du conscient. C'est-à-dire que pour Freud, l'individu a une conscience, il refoule des éléments, il crée son inconscient. Pour Jung, il y a l'inconscient et des éléments arrivent au conscient. Donc, il y a encore du monde derrière. Il y a encore des choses à choisir.
On imagine bien ça,
et
effectivement.
Oui. Et là, oui.
C'est presque la boîte de Pandore, du coup, avec tout ce
mais
qu'il
oui,
y a
mais
dedans.
C'est la grande différence. C'est que d'un côté, on a un inconscient qui est intrinsèquement négatif, qui n'est fait que de choses refoulées. Et on a de l'autre côté un inconscient qui est intrinsèquement positif. C'est-à-dire que c'est de l'inconscient que naît le changement et que naît la conscience. Donc, on voit bien l'opposition. C'est à partir de l'inconscient que la conscience se développe dans l'enfance, comme dans les âges lointains de la primitivité, lorsque l'homme devint homme. Il y a deux voies différentes pour l'apparition de la conscience. L'un, au moment de haute tension émotionnelle. L'autre, c'est l'état contemplatif, durant lequel des représentations comme des images, des rêves, brusquement, entre deux représentations en apparence éloignées, l'une de l'autre et sans relation, surgit une association qui libère une tension latente. Un tel moment a souvent l'apparence d'une révélation. Il semble que c'est la décharge de la tension énergétique de nature externe ou interne qui produit la conscience. Bon nombre, sinon la totalité des plus anciens souvenirs d'enfance gardent des traces d'un tel jaillissement soudain de conscience. Alors, c'est pas évident, hein. Moi, quand je me suis lu toute la biographie de Jung, j'ai dû la lire 4 ou 5 fois, parce que au début, qu'est-ce qu'il raconte, le bonhomme? C'est pas évident. Mais on voit cette évolution. On imagine un enfant qui rêve de quelque chose, et ce rêve va lui faire prendre conscience, sémantiquement, prendre conscience de. Et c'est cette apparition. Je ne parle pas d'une apparition, hein, je sais pas, j'ai pas vu la Vierge, hein, mais c'est cette apparition qui fait que l'individu va progressivement s'éveiller à la conscience. Donc si on pouvait schématiser la chose, on aurait un quelque chose d'ovale, entre guillemets, qui prend toute la place, c'est l'inconscient, et plus l'individu grandit, mûrit, et plus l'inconscient prend de place. D'accord ?
Plus il prend de place ?
Plus l'inconscient prend la place. C'est-à-dire que le alors c'est pas évident de le
c'est compliqué, hein, c'est comme les maths, en fait.
Imagine un verre assez grand qui a l'air vide mais qui est plein, d'accord. On met de l'eau et plus on remplit et plus la part que prend l'eau, c'est la part consciente, à savoir que le verre ne sera jamais plein parce que l'inconscient aura toujours beaucoup plus de place que le conscient. Pas si c'est clair.
Ça commence à l'être, mais il va falloir. Mais sur ce genre de concept, ce qui est intéressant aussi, c'est après de se poser et d'y réfléchir pour laisser digérer un petit peu, hein, aussi toutes ces infos. Hein. Allez, je te laisse continuer.
Je t'ai dit, hein, que ça allait être aujourd'hui, ça.
Oui,
allait
mais
être
c'est
un
bien,
petit peu
c'est
plus...
bien. Ça change aussi un petit peu de ce qu'on fait habituellement.
Tout
et
à
puis,
fait.
C'est aussi le thème de cette émission, hein, que nous proposons. C'est aussi de parler de psychologie, de psychanalyse.
Tout
hein.
À fait. Alors c'est toujours Jung qui parle, je dirais qu'à l'évidence, ce qui est premier, c'est l'inconscient, et que la conscience naît de cet état d'inconscience. Dans la petite enfance, nous sommes inconscients, les fonctions instinctives les plus importantes sont inconscientes, et la conscience est somme toute le produit de l'inconscient.
Voilà. C'est ce que tu expliquais, oui,
c'est ce
exactement.
Que d'accord. L'inconscient chez Jung est également caractérisé par son activité créatrice. Si l'on admet que l'inconscient se compose surtout de choses refoulées, on ne peut guère croire qu'il y a en lui une activité créatrice, et l'on arrive logiquement à conclure que les éclipses ne sont que des conséquences secondaires résultant du refoulement. Mais alors on se trouve sur une pente dangereuse. On élargit plus qu'il ne convient l'explication par le refoulement, et l'on ne tient pas compte de l'élément créateur. On exagère le causalisme et ne voit dans la création culturelle qu'une activité détournée de remplacement. Cette conception est non seulement morose et hargneuse, je parlais de Freud, hein, il dit là, mais en outre, elle dévalorise ce qu'il y a de bon dans la civilisation.
très intéressant, ça, justement, cette fameuse culture,
Eh oui.
quand
Eh
on
oui.
entend, et puis c'est quelque part très actuel, hein, quand on entend encore dire que la culture n'est pas essentielle, là, il est en train de nous dire le contraire,
Tout à fait, tout à fait. Mais Jung nous parle aussi d'éléments qui ne proviennent pas de ce que nous pourrions nommer acquis individuel, des éléments qui sont hérités, des instincts, des pulsions qui sont présents en chaque individu, qui sont là pour réaliser des actions commandées par une nécessité sans motivation consciente. On peut distinguer d'abord l'inconscient personnel qui renferme toutes les acquisitions de la vie personnelle, ce que nous oublions, ce que nous refoulons, perceptions, pensées, sentiments subliminaux. À côté de ce contenu personnel, il en existe d'autres qui ne sont pas personnellement acquis. Ils proviennent des possibilités congénitales du fonctionnement psychique en général, notamment dans la structure héritée du cerveau. Je désigne ces contenus en disant qu'ils sont inconscients collectifs. Le moi n'est qu'une parcelle de conscience qui flotte sur un océan de choses obscures. Jung, psychiatre de renommée, effectue auprès de ses patients un travail au cours duquel il met à jour cette notion d'inconscient collectif. C'est avant tout son travail auprès d'enfants et de leurs rêves, mais aussi auprès de patients schizophrènes, qu'il perçoit que les rêves des uns et les délires des autres sont essentiellement composés de contenus ancestraux et revêtent une forme de connotation mythologique. Ces éléments ne pouvant en aucun cas être connus par ces personnes, il s'agit bien là de contenus issus d'une sorte de lieu de représentation commune à toute l'humanité, un inconscient collectif.
C'est là où on arrive, voilà, à cette cet inconscient
Cet
collectif.
inconscient collectif, c'est-à-dire qu'à l'époque, de Jung, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas tous ces médias, donc on ne pouvait pas avoir accès à toutes ces informations. Et certains de ces patients avaient des délires, certains de ces patients parlaient dans des langues entre guillemets inconnues, et avaient représentaient des images, et dans ses recherches, il s'est aperçu que ça renvoyait à la mythologie. Ça renvoyait à de l'araméen, ça renvoyait à des choses que ces gens-là n'ont pas pu prendre quelque part parce qu'ils n'y avaient pas accès.
Ça veut dire que c'était quelque part dans leur fameux
C'était quelque
inconscient?
part dans leur fameux inconscient, dans l'inconscient collectif. Il s'est appuyé aussi sur les contes, sur les légendes. Il a parcouru, parce que Jung a quand même été un homme qui a fait plusieurs fois le tour du monde, pour aller justement à la rencontre des civilisations et voir qu'est-ce qui se passait dans ces civilisations. Et il s'est aperçu qu'il y avait certains contes qui étaient identiques chez les Indiens d'Amérique, en Europe, en Afrique. Alors certes, les noms des personnages étaient fonction du lieu où se vivait le conte, mais l'histoire était la même. Donc comment peut-on expliquer à cette époque que un Indien d'Amérique, je vais dire une grosse bêtise, hein, qu'un Indien d'Amérique nous parle du petit chaperon rouge. Voilà, enfin, je dis une bêtise en parlant du petit chaperon rouge. Un Chinois, etc., etc. Donc il a pris, en mettant à jour ce schéma, il a dit, bah, tiens, voilà, y a un inconscient collectif.
Et donc cet inconscient collectif, ce serait une sorte aussi de, du coup, de communication.
Une base commune. Quelque part, c'est comme si on était. Alors, on va dire ça y est, Ross, il a pété un boulon. C'est comme
Alors,
si on
si vous
était.
l'aviez vu hors antenne avant, je peux vous le dire. Voilà, bref, passons.
C'est un petit peu comme si on était tous reliés à un grand ordinateur avec un énorme disque dur, avec des milliards et des milliards d'informations. Et on récupère ces informations.
Quand tu expliquais ça, ça me faisait penser à j'avais une image. Quelqu'un est venu ici il y a très peu de temps nous parler des arbres et nous expliquer comment les arbres communiquaient entre eux, mais pas forcément par les racines comme on aurait pu imaginer. Ça peut être même du bruissement, etc. Donc il y a des espèces d'ondes, etc. Donc et quand tu me parlais de cet inconscient collectif qui se transmet, j'avais cette image de ces arbres qui finalement communiquent alors qu'on n'a aucune idée, on ne savait même pas que ça pouvait
Bien sûr,
communiquer.
bien sûr.
Donc, est-ce que, voilà, c'est pour ça que je te parle je te dis ce mot de communication. Est-ce que c'est un moyen, voilà, une base commune, mais aussi une sorte de communication? Alors, c'est le mot qui me vient.
Une sorte de communication, une sorte de moi, j'emploierais plus le mot lien, une sorte de lien commun à toute l'humanité. Et quand je dis toute l'humanité, je parle, même si le mot race ne doit plus être dit, je trouve ça complètement débile, mais enfin bon, ça c'est mon opinion. Hein. C'est pas.
Parce que ça a pris un côté péjoratif, ouais, alors que ça ne l'est pas.
Il n'y a rien de péjoratif. Voilà. Moi je suis de race blanche, point, voilà. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de supérieur ou quelqu'un d'inférieur, mais employant le mot race dans ce terme-là, à partir du moment où on se dit, je reprends le chaperon rouge, hein, que le chaperon rouge a sa base en Afrique, que le chaperon rouge a sa base en Amérique, chez les Indiens d'Amérique, ou chez les Hollandais ou les Français, on s'aperçoit finalement qu'il y a quelque chose de commun à toute l'humanité. Et l'humanité, c'est pas je suis noir, je suis blanc, je suis gris, je suis vert, c'est l'humanité. Et à mon sens, c'est profondément, est-ce que le mot est bien approprié, mais profondément démocratique de ce que nous dit Jung. Malgré le fait qu'à un certain moment, Jung a été accusé de comploter avec les nazis, ce qui est totalement faux, puisqu'il travaillait pour les services secrets américains. Mais il avait écrit un article justement sur la race aryenne et il faisait des comparaisons et il expliquait le pourquoi les Allemands fonctionnaient de cette manière. Il avait fait toute une thèse là-dessus et les anti-Jung s'en est approprié en disant mais vous voyez il est avec eux quoi. Alors ce qui est totalement faux. Je continue.
Allez.
Les instincts et les archétypes constituent l'ensemble de l'inconscient collectif. Je l'appelle collectif parce que, au contraire de l'inconscient personnel, il n'est pas fait de contenu individuel plus ou moins unique. Oh, qu'est-ce que j'ai écrit là ?
Ah.
Super. Il n'est pas fait de contenu individuel plus ou moins unique, ne produisant pas, mais de contenus qui sont universels et qui apparaissent régulièrement. Dans sa vision de l'inconscient, Jung distingue plusieurs strates, plusieurs couches. Dans un premier temps, l'inconscient individuel, propre à chacun, puis ce que nous pourrions nommer l'inconscient collectif familial auquel on appartient. Dans certaines familles, il y a par exemple certains chiffres qui reviennent génération après génération. J'ai une dame que je reçois actuellement dans sa famille. Toutes les filles aînées n'ont pas d'enfants. Depuis plusieurs générations, ça se reproduit. Puis l'inconscient collectif du groupe ethnique et culturel auquel appartient la famille, et enfin au-dessus, un inconscient collectif primordial. C'est ce qui est le plus général à l'humanité, comme par exemple la peur commune de l'obscurité, les instincts, etc. Dans cet inconscient collectif, il y a des structures de base, un code général, où cet inconscient s'exprime, ce sont les archétypes. Plus les couches sont profondes et obscures, plus elles perdent leur originalité individuelle, plus elles sont profondes, plus elles deviennent collectives et finissent par s'universaliser et s'éteindre dans la matérialité du corps, c'est-à-dire dans les corps chimiques. Le carbone du corps humain est simplement charbon. Au plus profond d'elle-même, la psyché n'est plus qu'univers. Comme l'homme est formé d'eau, de carbone, etc., et que la Terre est formée d'eau, de carbone, il dit qu'il y a un lien. Il y a un lien. Et là, dans cette citation et dans cette phrase, on voit la naissance de ce qu'on a appelé toute la psychologie humaniste, toute la psychologie en parallèle avec la psychanalyse, je dirais les psychologies, je ne trouve plus le mot, qui vont beaucoup plus vite, qui vont à l'essentiel, qui vont à la réponse.
Et ce qui est extraordinaire là, dans cette citation-là, dans ces mots-là, c'est d'un coup, on se dit, OK, donc cet inconscient collectif, finalement, on parle d'humanité, mais il est planétaire, alors.
Ah oui,
mais, au sens premier du
planétaire,
terme planète.
Tout à fait, tout à fait.
Savoir après.
Exactement. L'inconscient collectif s'exprime souvent dans l'art, sous toutes ses formes. Et bien souvent, les personnes qui en sont imprégnées ne voient leur statut de génie ou d'artiste reconnu que bien après leur mort, souvent après plusieurs générations. Mais il est une certitude aujourd'hui de dire qu'une personne dominée par l'inconscient collectif perd peu à peu en conscience. En d'autres termes, nous pourrions dire que le conscient perd sa position dominante. Le principe d'individuation, ce dont je parlais tout à l'heure, qui se veut être la pierre angulaire de la psychologie analytique, ce processus qui fait de l'individu un être entier, suppose l'assimilation par le conscient des contenus produits par l'inconscient, donc la compréhension et l'intégration de ces contenus. Lorsqu'une personne se retrouve envahie par l'inconscient collectif, le principe d'individuation est difficile, voire impossible à mettre en place avant un gros travail d'analyse. Nous l'avons vu, Jung distingue plusieurs strates dans l'inconscient collectif. Il ouvre alors la voie à ce que nous appelons aujourd'hui la psychogénéalogie, qui, étrangement, a été mise à jour par des thérapeutes freudiens. Citation de Jung. « Tandis que je travaillais sur mon arbre généalogique, j'ai compris l'étrange communauté de destin. » Tiens, communauté de destin, ça me rappelle quelque chose, ça.
Je ne vois pas du tout de quoi tu parles.
Moi non plus, non, je reprends. « Tandis que je travaillais sur mon arbre généalogique, j'ai compris l'étrange communauté de destin qui me rattache à mes ancêtres. J'ai très fortement le sentiment d'être sous l'influence de choses ou de problèmes qui furent laissés incomplets ou sans réponse par mes parents, mes grands-parents et mes ancêtres. Il me semble souvent qu'il y a dans une famille un karma impersonnel qui se transmet des parents aux enfants. J'ai toujours pensé que, moi aussi, j'avais à répondre à des questions que le destin avait posées à mes ancêtres, mais auxquelles on n'avait pas encore trouvé aucune réponse, ou bien que je devais terminer ou tout simplement poursuivre des problèmes que les époques antérieures laissèrent en suspens. La psychothérapie n'a pas encore assez tenu compte de cette circonstance. »
Mais elle est en train.
Et là, on voit l'ouverture à toutes ces psychothérapies qui aujourd'hui ont pignon sur rue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la psychanalyse. Alors, je dirais malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je ferai tout pour que tu puisses le dire. Malheureusement, la psychanalyse est en train de perdre son essence. Mais il faut qu'il y ait des psychanalystes freudiens, il faut qu'il y ait des psychanalystes lacaniens, il faut qu'il y ait des personnes qui travaillent avec Jung, il faut qu'il y ait des personnes qui travaillent avec Milton Erickson, parce que chaque personne est unique et chaque thérapeute pourra répondre à telle ou telle problématique.
Et puis on peut imaginer de toute façon que ce soit normal que ça évolue, le monde évolue, la société évolue, on n'est plus, tu le disais, du tout dans les mêmes schémas de cette époque, soit Jung, Freud, etc. L'époque a changé aussi.
Le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est les thérapies brèves. Voilà, en analogie à la psychanalyse, la thérapie brève. C'est-à-dire que Jung, quelque part, est le père de toutes ces thérapies brèves. Thérapies qui ont été mises à jour à l'école de Palo Alto. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'avaient rien à voir avec la psychologie, des mathématiciens, des personnes qui travaillent sur Internet, qui ont commencé à essayer de déchiffrer comment travaillait Jung, comment travaillait Milton Erickson, donc le père de l'hypnose ericksonienne, et ils ont mis à jour les thérapies dites brèves. Alors, la brièveté de cette thérapie ne veut pas dire que c'est une thérapie qui se fait en une séance, mais c'est la brièveté par rapport à la psychanalyse qui dure 7, 8, 10, voire toute une vie. Voilà. Donc, voilà, ce sont les 8 ou 9 premières pages de l'ouvrage que j'ai écrit. Il y en a, je crois que j'en suis à 120 ou 125, un truc comme ça. Et partant de là, je suis en train de voir en Corse, sur notre terre, quels sont les...
Justement, si tu es d'accord, on fait juste une petite pause musicale. Hein, et puis, alors, je l'ai fait. Hein. J'allais dire, c'est mon inconscient qui a programmé la chanson à venir, l'artiste à venir. Et j'avoue que ce n'est pas mon inconscient qui l'a fait, mais bien mon conscient. On se retrouve juste après Bruce. Et puis,
comme par hasard.
Par hasard. Et puis, on revient parce que justement, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur cet inconscient collectif noustral, s'il en est. Allez, on part avec Bruce, mais vraiment de façon absolument, absolument consciente.
Stones in my mouth, said those were only the lies you've told me. Those are only the lies you've told me. I pulled my collar to the wind and spit them on the ground. You said those are only the lies you've told me. Those are only the lies you've told me. You said on the air. I felt them gather on my tongue. I woke up this morning with stones in my mouth. You said those are only the lies you've told me. Those are only the lies you've told me.
The lies you told me. Ici, ben, il ne reste plus que les mensonges que tu m'as racontés. Alors, bien sûr, dans cette émission Psy Sex and Radio, Daniel Ross, qui est notre psychopraticien relationnel préféré, ne nous raconte pas des mensonges. Par contre, il nous parle de l'inconscient collectif. Alors, pendant toute la première partie de cette émission, Daniel, tu nous as dressé un peu l'image de l'inconscient collectif vu par Jung et par Freud, mais principalement par Jung. Par Jung. On le disait un petit peu en off, là, nous discutions, et on disait qu'effectivement, c'est impressionnant comment cet homme pourrait s'inscrire et s'inscrit encore, en tout cas ses idées s'inscrivent encore dans les questionnements que nous avons à l'heure actuelle au XXIe siècle. Hein.
Tout à fait.
Et alors justement, cet inconscient collectif, j'ai envie de te poser la question, et la Corse dans tout ça, la communauté de destin.
La fameuse, c'est vrai, tu as vu un peu, j'aime même pas. Et le pire de tout, c'est que dans les écrits, comme je le répète, ces écrits datent de se sont étalés depuis 8 ans, ben, je ne me rappelais plus du tout qu'il y avait cette citation avec cette nation. Cette nation. Ah,
comme quoi, décidément. Oh là là. Serait-ce inconscient, ton inconscient à toi
cette notion de communauté de destin, ben voilà, hein, ça prend tout son sens. Malgré qu'aujourd'hui, certaines personnes remettraient en cause cette communauté de destin, enfin, on n'est pas là pour faire ce genre de débat.
Non, peut-être, mais peut-être qu'un jour, ça pourrait être intéressant, justement. Tout à fait, justement. Ici, ce que nous aimons, c'est les débats, les vrais débats, bien où sûr, chacun débat, sûr. Chacun discute, en tout écoutant l'autre aussi.
Et je te parlais tout à l'heure de mon ami Anton Tramini. Il y a quelques mois, il a fait une émission et le soir, je l'avais vu, j'ai dit, ah, tiens, j'étais à Frequenza Nostra. Il me dit, à quelle heure tu y étais? Je dis, à 14 h. Oh, il me dit, oh, bon, j'y étais, c'est ça. Ou si on aurait pu discuter, on aurait pu faire une émission sur. Tiens, voilà.
Eh bien, allez Antoine,
je le vois ce soir.
Eh bien, voilà.
Je le vois ce soir.
Allez, on prendra rendez-vous peut-être la prochaine. S'il est disponible, la prochaine, on pourrait se la faire en mode débat.
Pourquoi pas. Alors, cet inconscient collectif est profondément enraciné dans l'histoire mouvementée de l'île de Corse, marquée par des périodes de domination étrangère, de résistance et de lutte. Il est également influencé par les particularités géographiques de la Corse, sa langue, sa musique, sa gastronomie et ses rites religieux. Alors, quand j'écris ça, on pourrait dire, ouais, le gars, il est nationaliste. Ouais, j'assume, je suis totalement nationaliste, c'est pas un problème, j'ai été militant, et peu importe. Mais on peut pas, qu'on soit nationaliste ou pas, on peut pas nier le fait que la Corse a été a eu une histoire mouvementée, marquée par des dominations étrangères, de résistance, de lutte, etc. etc. C'est l'histoire depuis...
C'est juste un constat. Hein.
C'est un constat. C'est un constat.
Oui, vas-y.
Alors, donc, géographie, langue, musique, gastronomie, rites religieux. Et ensuite, j'ai pris quatre exemples de qui, à mon sens, sont vraiment des vecteurs des liens entre le 21e siècle et l'inconscient collectif corse. Le premier vecteur, les chants traditionnels, la polyphonie, à mon sens, ont une profonde connexion avec l'inconscient collectif, parce qu'elles véhiculent une émotion, elles véhiculent des valeurs, elles véhiculent une histoire, elles véhiculent une manière d'être, une manière de chanter, une manière de parler sa langue. Donc on voit vraiment le lien entre la polyphonie. Alors, ce lien entre la polyphonie corse et l'inconscient collectif, c'est, je pense, le même qu'entre la polyphonie bulgare et l'inconscient collectif, ou la polyphonie, comment ils s'appellent, ceux qui ont les œufs bridés, là, qui sont en haut.
Oui, ouais. Tout en haut.
Tout en haut.
Là où il fait froid.
Voilà, tout à fait, je me rappelle plus.
Ça va nous venir, mon Dieu. Un petit café, après, ça reviendra plus facilement.
Voilà, tout ce que je vais dire là, c'est valable pour la Corse, mais bien sûr que c'est valable pour le reste de l'humanité. Mais c'est justement pour faire prendre conscience, et le mot n'est pas vain, pour faire prendre conscience du lien qui existe entre l'inconscient collectif et les individus que nous sommes. Donc ces chants traditionnels, ces chants polyphoniques qui aujourd'hui heureusement ont été reconnus, c'est un lien profond. Moi je te parle d'Antoine Tramine, j'apprends avec lui le chant polyphonique, et quand je chante, rien que d'y penser, je suis parcouru d'un frisson. C'est pas le même frisson quand je suis fan d'Elvis Presley, quand je chante Elvis Presley, oui, c'est cool, mais...
Est-ce que c'est pas plutôt une question de... Alors, peut-être que ça se rejoint, de sensibilité, mais parce que la sensibilité, elle est reliée à l'inconscient.
Bien sûr. Combien de gens qui sont non-corses, moi je les entends dans mon cabinet, j'ai des gens qui me disent... Ah, je venais en vacances ici, et chaque fois que j'arrivais ici, je me disais, ah, je suis à la maison. C'est dingue. Et je pense qu'au vu de la manière dont tu hoches la tête, ça veut dire que toi aussi, tu as dû entendre ce genre de choses.
Oh que oui.
D'accord. Et combien de gens de Corse à ce moment-là, quand ils partent, quand ils reviennent, ils sentent qu'il y a quelque chose, ils sentent qu'il y a un lien.
Alors ça va peut-être même au-delà de ça, puisque ce lien-là, des fois, on se dit c'est plus que des liens, c'est de la racine, c'est quelque chose qui même nous empêche. C'est-à-dire que ça nous empêche.
Oui, mais justement,
vraiment.
Mais c'est ça. C'est le. Si on comparait l'état entre guillemets de l'homme corse, l'homme au sens avec un grand H, hein, parce qu'aujourd'hui il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein. ce lien, il est à la fois vital et lui permet de conserver ses racines, de conserver sa manière d'être, de conserver ses valeurs. Mais en même temps, le mot lien, ça veut dire quoi? Quand j'ai un lien, ben je peux aussi avoir un lien qui m'empêche de bouger. Et c'est là, si on prend cette notion de principe d'individuation, c'est le conscient et l'inconscient qui, quelque part, non pas ne forment qu'un, mais l'individu arrive à avoir accès à son inconscient et à réussir à y puiser des choses positives. Si on reporte cette notion d'individuation à l'individu corse, reste dans tes racines. Moi, je parlais tout à l'heure de nationalisme, et souvent, quand j'étais en réunion, on me disait, tiens, un utopiste, oui, je suis pas un problème, je suis un utopiste. Moi, je disais, pour moi, le nationalisme, c'est s'ancrer avec ses racines pour mieux s'ouvrir aux autres.
J'adhère.
Voilà. Et c'est ça, c'est que oui, il y a un lien, certes, mais ce lien, c'est un petit peu comme si ce lien, il faisait des milliards de kilomètres. Ouais, je m'en vais, mais je garde un lien. Alors, s'il y a la caméra, les gens.
Mais ils entendent en même temps.
Ils entendent en même temps. C'est, voilà, il y a quelque chose qui me relie à, mais en même temps, je sais qu'il y a des tas de chansons. Hein, qui disent ben ils sont partis Anthony Chose, il dit, je me rappelle plus de la chanson, il disait ils sont partis jeunes, ils reviennent les cheveux blancs
et ça d'ailleurs, regarde dans les familles où les gens sont partis, certaines générations et puis les descendants reviennent.
Oui,
il y a quelque chose, alors que forcément, alors on parle de la Corse. Hein,
oui,
là,
mais c'est valable, voilà, pour tout.
Mais là,
tout,
effectivement,
bien sûr,
en Corse, je pense à ces familles de pieds noirs. Alors certains sont rentrés, certains ne sont pas forcément rentrés en Corse. Mais par contre, les descendants rentrent. Mmh. Et puis alors qu'ils n'avaient jamais mis les pieds sur l'île.
Tout à fait.
Mais et ils ont cette notion-là, on rentre.
On
c'est
rentre.
Pas, on vient sur l'île, on rentre à la maison. Quoi,
alors qu'ils ne connaissaient pas cette maison, entre guillemets. Donc voilà, c'est ce lien. Deuxième élément par rapport à l'inconscient collectif, la langue. La langue, bien plus qu'un outil de communication, elle incarne l'inconscient collectif corse, reflétant son patrimoine culturel, ses valeurs et son héritage historique. La langue corse, pour ceux qui ont la chance de la parler, on s'aperçoit que c'est une langue qui est imagée. Il y a certaines paroles que tu ne peux pas traduire. Certainement comme d'autres langues. Je suis amoureux de ma langue, je suis amoureux de ma terre. Bien sûr que j'en parle avec passion, mais je ne suis pas en train de dire qu'on est supérieur. C'est vraiment là, c'est important de le dire, hein, c'est important, parce que très souvent, on entend des discours « Oh, alors ?»
Oui, puis alors, je suis fier, je suis content, je suis heureux, mais fier, c'est quand on a fait quelque chose,
oui,
hein, de quoi être fier, mais quand on hérite de ça...
Oui, mais justement, il y a les fameux autocollants « Sogor, c'est Nézovier ».
C'est ça.
Ok, mais tu es fier de quoi?
Mais c'est ça.
Mais c'est ça aussi. Prenons cet autocollant « Je suis corse et j'en suis fier ». Tu es fier de quoi? Tu es fier de ton passé, tu es fier de ta culture, tu es fier de tes racines. Donc, indirectement, tu es fier de ton inconscient collectif. C'est tout bête. Tu vois, même que dans une phrase qui semble anodine, on peut trouver ce lien avec cet inconscient collectif. Ensuite, dans cet ouvrage, je parle de Agranitula. Je ne sais pas si tu sais ce qu'est Agranitula. C'est cette procession religieuse qui tourne sur elle-même qui rentre en son milieu, un petit peu comme une coquille d'escargot. Et Jung a fait un travail sur les... Oh, putain, aujourd'hui ça va pas, hein.
Non, mais je crois
que c'est parce que je suis à ton contact et que...
Ouais, c'est peut-être une histoire d'inconscient collectif, là c'est l'oubli collectif, l'oubli des mots, désolé de transmettre les
mandalas. Voilà, Jung a fait un travail sur les mandalas et il a démontré que tout ce qui comporte l'humain, l'univers, est quelque chose de circulaire. L'atome, la terre, et même il a travaillé sur les religions, il a démontré, il y a certains dessins, parce qu'il faisait aussi des dessins qui montrent qu'effectivement si on voit le Christ dans la croix, ben, il y a un cercle autour de lui. Il y a un cercle au-dessus de lui. Donc c'est ce cercle et ce mandala qui fait que c'est ce lien avec l'inconscient collectif. Il y a d'ailleurs un travail thérapeutique où on travaille avec les mandalas. En gros, je schématise bien entendu, si vous êtes quelqu'un qui est un petit peu très très excité, ben vous remplissez le mandala de l'extérieur vers l'intérieur, vous vous repliez. Et si vous êtes quelqu'un d'un petit peu trop replié, ben vous remplissez le mandala de l'intérieur vers l'extérieur et vous vous ouvrez, d'accord. Et dans cette granite ou là, ben on retrouve ce cercle, on retrouve ce lien avec l'inconscient collectif.
Mais ce cercle, encore une fois, il est planétaire.
Et oui.
Nous sommes sur une planète qui est un cercle, une boule
tout
qui
à
tourne.
Fait. Tout à fait.
Et qui fait des cercles.
Et oui.
Et dont, enfin, autour
qui
de laquelle tourne, on fait des cercles.
Tourne, et autour de laquelle tourne la Lune qui fait des cercles, etc., etc., etc. Donc on voit que le cercle, le mandala, est l'essence même de la vie, d'accord. Donc cette granite là, qui est empreinte de valeurs telles que le respect des ancêtres, la solidarité, et qui célèbre la vie du défunt, c'est aussi ce lien qu'a la terre corse et qu'ont les Corses avec la mort. On n'a pas le même lien avec la mort. Pour nous, la mort fait partie intégrante de la vie. tout ce qui naît du verbe naître est appelé à mourir.
J'émets une petite réserve sur cette, la vision qu'on peut avoir, en tout cas maintenant en Corse, de ça.
Oui.
On en discutait un petit peu tout à l'heure en off, de cette fuite en avant qu'on a dans ces... depuis quelques générations, hein, où on court, on est pressé de tout, peut-être parce que justement, on ne veut pas la regarder en face.
On ne veut pas la regarder en face. Non seulement on ne va pas la regarder en face, mais un petit peu comme si on disait, je fais toujours cette comparaison, je suis en vacances et je veux profiter au maximum de mes vacances.
C'est-à-dire, même je fais si je suis crevé tellement de pour choses, que je fasse des choses.
Voilà, je fais, et quand je reviens de vacances, je suis complètement éclaté, mais tu reviens de vacances. Ah, ouais, mais je n'ai pas pris le temps de me reposer. Mais c'est ce que vit l'homme, entre guillemets, moderne, parce qu'à toute époque, il a été moderne, hein, cet homme. Mais c'est ce que vit l'homme moderne, c'est-à-dire qu'il sait qu'il va mourir, donc il veut remplir. Il faut que je fasse un maximum de choses avant que de mourir. Oui, certes, mais en faisant un maximum de choses, tu prends pas le temps de profiter. Tu prends pas le temps de te poser. Tu prends pas le temps de
et peut-être de vivre, de vivre vraiment essentiellement.
Et, oui, et de profiter de l'autre au sens noble du terme. Le terme profiter ne voulant pas dire abuser d'eux, hein, mais profiter du fait d'être avec l'autre, de partager. D'accord. Le dernier lien aujourd'hui, hein, le dernier lien, c'est quand on parle d'archétype, ben, l'archétype du bandit d'honneur qui petit à petit s'est transformé en archétype du militant du FLNC. Alors qu'on soit pour, qu'on soit contre, la question n'est pas là. C'est ce que représente le bandit d'honneur, ce que représente le militant du FLNC. Donc, symbole de résilience, symbole de lutte, symbole d'identité.
Le rebelle.
Donc, le bandit d'honneur, c'était un rebelle. On va pas chercher le bandit d'honneur. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Parce que pour certains, oui, c'était des bandits d'honneur. Pour d'autres, c'était des crapules. Mais ils entraient dans ce schéma bandits d'honneur parce qu'ils se rebellaient contre l'État qui était là et qui voulait, l'État français qui était là et qui voulait, etc. etc. Et ça, c'est ça l'archétype. C'est quelle image je me fais de cet objet, de cette chose, etc. etc. Quand on voit, moi il m'arrive des fois quand je pars voir mes enfants à Marseille, il m'arrive de croiser des Corses d'origine qui n'ont jamais mis les pieds en Corse et qui ont une Corse presque, elle est tellement lourde la Corse qu'ils portent autour du cou, qu'ils marchent à quatre pattes, avec un ribelle au-dessus, avec un toc d'accent marseillais, et oh, je suis Corse moi, et puis ils ont la chemise ouverte, ils ont le clandestin. Mais pour eux, être Corse, c'est quelque part, je suis un rebelle, je suis un insoumis.
Ça veut dire que c'est cette image que transmet, en tout cas, que transmet de la Corse, qui est une image qui, quand on vit ici, notamment par rapport, tu parlais de valeurs, etc., on voit bien que tout ça, c'est bien étiolé.
Oui, tout à fait.
Mais
oui.
Vraiment.
Tout à fait.
Mais cette image, elle persiste parce qu'elle serait inscrite, en fait, dans ce fameux inconscient collectif.
Parce qu'il y a l'inconscient collectif. Je prends bien sûr l'histoire de la Corse, puisque nous sommes en Corse et que nous sommes Corse, et c'est valable partout ailleurs. Il y a cet inconscient collectif corse, avec ce que renvoie cet inconscient à l'individu corse, mais il y a aussi l'inconscient collectif de la Corse qui renvoie l'image au non-corse. Dire, oh, tu es corse, oula. La première réaction quand vous dites à quelqu'un tu es corse, oula, quelque part
il y a une réaction. C'est un truc de fou, il y a une réaction.
Je prends l'exemple, je ne sais pas si tu avais raconté cette histoire d'Hugo, donc Hugo étant mon fils, pour ceux qui sont fidèles.
Qui était venu là, qu'on avait vraiment là. Reçu avec grand plaisir.
La première fois qu'il rentre au lycée à Marseille, quand il est quelque part, il regarde tout, il est là, il est très très curieux de tout, et il croise le regard d'une fille donc à Marseille qui lui dit « baisse les yeux ». Il dit quoi? Il lui dit quoi? Oui, baisse les yeux. Il dit moi je baisse pas les yeux. Déjà on voit ce moi je baisse pas les yeux. Et elle lui dit où tu as un accent toi? Il dit oui je suis corse. Ah tu es corse? Ah oui. Après, et maintenant la nana lui dit bonjour. Et il est corse donc il peut la regarder. Alors, c'est dingue.
Quel monde.
Non mais voilà, mais c'est ta conscience collective que je parle de la Corse, que le Corse peut avoir en disant voilà, j'ai des valeurs, etc. etc. Mais il y a aussi cet inconscient collectif de l'image que peuvent avoir les autres
de Mais alors, de la course. Est-ce que cet inconscient collectif, là, en l'occurrence, il n'est pas aussi consciemment véhiculé?
Oui, tout à fait, oui. Donc, du coup, c'est bien sûr.
Deux concepts qui s'entrechoquent.
Ce sont deux concepts qui s'entrechoquent. Bien sûr qu'il est consciemment véhiculé parce que ça permet. Je me rappelle d'un un de mes patients qui était et c'est pas péjoratif parce que tout de suite qui est toujours Pinsout, qui est venu vivre ici et il était immatriculé donc ici et il me dit je pars sur le continent et il y a quelqu'un qui me klaxonne. Et j'ouvre la fenêtre, yo, il lui a dit, oh, regarde ma plaque d'immatriculation. Comme pour dire, tu as vu ma plaque, je viens de Corse, donc tiens-toi bien. Donc effectivement, c'est véhiculé par ceux qui viennent ici, qui sont non-Corse et qui tendent à le devenir, du moins je l'espère, et ceux qui sont Corse et qui quelque part entretiennent, parce que ben, c'est pratique.
En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur cet inconscient sujet, oui, collectif. Ce qui est aussi, c'est très questionnant aussi tout ça en fait. Est-ce que finalement tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut dire, les gestes qu'on peut aussi produire, est-ce que les actions qu'on peut produire, est-ce que tout ça finalement, c'est pas quelque chose qui nous est inconsciemment dicté? Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment autant de questions qu'on peut se poser.
Bien sûr, tout à fait.
En tout cas, très intéressant. La preuve, ça fait presque une heure que nous discutons. Alors, peut-être certains d'entre vous se sont endormis, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous,
réveillez-vous.
En tout cas, nous, on a continué à faire cette conversation et j'ai beaucoup apprécié beaucoup de réflexions, je trouve. Autour de cet inconscient collectif, que ce soit ici, que ce soit en règle générale,
bien sûr.
Des découvertes sur... je ne suis pas une fan à la base de psychanalyse et découvrir Jung ou Freud de cette manière-là, c'est aussi très intéressant parce que c'est à notre portée.
Bien sûr, tout à fait.
Parce que quand on n'est pas expert en la matière, c'est bien aussi de pouvoir mettre ces concepts à notre portée, à la portée de tout le monde. Donc merci pour
ça,
Daniel.
C'est le but de la radio, il me semble.
Voilà, en tout cas, de cette émission-là,
de
c'est
cette
le but,
émission
c'est
aussi,
sûr.
Tout à
c'est
fait.
Sûr. Daniel, on a fini pour aujourd'hui. Hein. On pourrait.
Oui, on pourrait en dire encore long, mais bon, après, ils vont plus. C'est pas une sieste qu'ils vont faire. Je pense qu'ils vont rentrer dans un coma.
Ou pas. On ne sait pas. Bon, en tout cas, encore une fois, très intéressant. On va réfléchir justement à une émission, peut-être avec des rencontres, discuter sur ce côté. Il y a un mot qui m'est venu quand on parlait d'inconscient collectif aux Corses et de cette communauté de destin, c'est le mot corsitude. Mmh. Est-ce que cette corsitude, justement, elle relève de cet inconscient collectif? Est-ce qu'elle est maintenant véhiculée consciemment? Ça serait peut-être intéressant d'avoir des personnes qui puissent débattre, en tout cas d'avoir des idées là-dessus. Daniel, merci.
Merci à toi.
Donc, on se retrouve dans un mois
d'avril,
à peu près.
Hein, on verra la date.
Voilà, hein, c'est ça.
Okay.
Merci.
Merci
encore et à bientôt.
Psychologie, analyse, sexologie. Psy, sex and radio.